va être un message participatif, donc je vais vous demander aux uns et aux autres de bien vouloir participer. Je vais juste proposer un texte biblique, je vais faire la lecture, je vais faire quelques commentaires autour de ce texte, du contexte, du récit lui-même, et à la fin je vous donnerai la parole pour que chacun puisse dire quelles sont les leçons et les enseignements que vous retirez pour vous-même. Alors le texte se trouve dans Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, et nous allons lire à partir du verset 22. Nous lisons ceci, Matthieu 14, 22. « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Des vagues et des vents contraires. Voilà un épisode très intéressant de l'Évangile qui, j'en suis sûr, a des choses intéressantes à nous dire aujourd'hui sur notre vie qui subit à chaque instant des vagues et des vents contraires, voulus par le Seigneur. Ce passage présente les disciples de Jésus dans une situation de grande détresse, en proie à une tempête au milieu de la nuit, en pleine mer. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre pour nous aujourd'hui, pour notre vie chrétienne de chaque jour? Alors je pense que pour bien comprendre ce qu'il a à nous dire, il faut d'abord placer ce récit dans son contexte, celui qui nous est présenté par les trois évangiles, Matthieu, Marc et Jean. Et la lecture de ce récit dans ces trois évangiles nous permet de relever au moins trois détails qui me semblent importants. D'une part, Jésus venait de recevoir une triste et terrible nouvelle, la décapitation de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, son cousin. Une nouvelle comme celle-ci ébranle, sans aucun doute, ébranle celui qui la reçoit. D'autre part, les disciples venaient d'effectuer un voyage missionnaire, un voyage d'évangélisation, et ils arrivaient fatigués auprès de Jésus. Et donc, ayant reçu cette douloureuse nouvelle et constatant que les disciples étaient fatigués, Jésus décide d'aller avec eux dans un lieu à part, dans un lieu isolé pour se reposer. Or, les gens l'ont su. Les gens l'ont su et les ont suivis. Une foule immense, on nous parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Des gens venus de toutes les villes environnantes sont venus les rejoindre là où ils étaient. Et le passage nous dit que Jésus est mu de compassion pour cette foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à guérir les malades et il pourvoit à leur nourriture à la fin de la journée grâce à ce fameux miracle des 5 pains et des 2 poissons du petit garçon. Le troisième détail important rapporté par l'évangéliste Jean, c'est qu'en voyant ces miracles accomplis par Jésus, la foule veut le faire roi. La foule veut le faire roi, un roi qui les délivrerait de l'oppression romaine, car ils ont une idée pas tout à fait juste, n'est-ce pas, du Messie promis, du Messie annoncé, du rôle de ce Messie. Et Jésus résiste à cette volonté populaire, car il sait exactement quelle est sa mission. Il sait pourquoi il est venu parmi les hommes. Il sait pourquoi il est venu sur la terre, s'offrir en sacrifice pour les péchés de l'humanité, pour les péchés du monde. Et donc, face à ces choses-là, Jésus réagit de manière un peu étrange, en tout cas un peu surprenante. Comme la foule a du mal à le quitter, car elle est ravie, n'est-ce pas, de voir les prodiges, les miracles de Jésus, en plus d'être nourrie comme ça, gratuitement. Jésus ordonne à ses disciples de prendre la barque, de prendre une barque et d'aller sur l'autre rive, d'aller de l'autre côté, en direction de Bethsaïda ou de Capernaum, en attendant qu'il renvoie la foule. Et je dis bien qu'il ordonne, car la signification du mot dans le texte original signifie ordonner, obliger, forcer, contraindre. Jésus a contraint ses disciples à le laisser, à aller de l'autre côté. Pourquoi fait-il cela? Et en plus à la fin de la journée, la nuit tombant. Pour quelle raison oblige-t-il ses disciples à prendre le bateau la nuit pour faire cette traversée qui serait sans doute une traversée difficile dans cette mer, la mer de Galilée? Je vois encore trois raisons à cela. D'abord, parce que les disciples, eux non plus, ne voulaient pas le quitter. Les disciples ne voulaient pas le quitter, ils voulaient rester avec Jésus, ils étaient fatigués. Et en plus, la journée avait été forte en émotions. Les événements de la journée les ont sans doute marqués. Alors pourquoi le quitter? Et en plus, les disciples voulaient certainement faire comme la foule, ils voulaient l'acclamer, le faire roi. Jésus ne leur laisse pas le choix. Il est contraint à prendre le bateau et aller sur l'autre rive. Jésus n'était pas venu pour être un roi politique, il était venu pour être un roi spirituel, un roi qui règne dans le cœur des hommes et qui les transforme, un règne spirituel. Et donc il décide de renvoyer les uns et les autres, il décide de se séparer d'eux. Ceci dit, il avait sans doute d'autres intentions. Car ce qui va se passer après le montre bien. Jésus voulait passer du temps dans la prière, comme il avait l'habitude, n'est-ce pas? Passer du temps dans la prière, dans la communion avec son Père. La prière était pour lui quelque chose de fondamental, d'essentiel. Il priait avant de faire quelque chose, sans doute pendant et après aussi. Il avait besoin de cette relation intime et personnelle avec le Père. Voilà pourquoi il a fait preuve de fermeté vis-à-vis des disciples et de la foule. Mais il voulait également apprendre quelque chose d'essentiel à ses disciples. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage pour ce matin. La foule et les disciples étant partis, Jésus monte sur la colline et cette fois-ci, il s'isole pour prier. Prier seul, à part. Il en avait bien besoin, surtout après une telle journée et surtout après cette nouvelle terrible de la décapitation de son cousin Jean-Baptiste. Pendant que Jésus prie, les disciples dans la barque font la traversée de cette mer la nuit. Alors on peut imaginer les questions des disciples à ce moment-là, n'est-ce pas? Les questions qu'ils se posaient pendant la traversée. Ils étaient sans doute consternés de devoir quitter leur maître. Et ils se demandaient, mais pourquoi nous a-t-il renvoyés en plus la nuit? Mais pourquoi faire? Ayant le pouvoir de faire tous ces miracles qu'il a fait aujourd'hui, dans la journée, qu'est-ce qu'il attend pour devenir roi, pour nous libérer de l'oppression romaine? Or, pendant qu'ils effectuaient cette traversée de la mer de Galilée, très tard dans la nuit, vers peut-être 3 heures du matin, les disciples dans la barque, déjà très éloignés de la côte, au milieu de la mer, font face à des difficultés. Ils font face à quelques difficultés. Des vagues de plus en plus fortes secouent leur barque. Un vent contraire les empêche d'avancer. Bref, ils font face à une tempête. La mer est agitée. Ils sont en danger. Il faut dire aussi que leur barque n'avait rien à voir avec les catamarans modernes, n'est-ce pas, très sophistiqués qui existent aujourd'hui. C'était une nacelle. C'était une nacelle, donc quelque chose de très rudimentaire. Pour naviguer, ils n'utilisaient pas les voiles, mais des rames. Ils ont ramé toute la nuit. Ils l'ont fait pendant environ 8-9 heures, pour faire juste quelques kilomètres. La traversée très lente est devenue donc vraiment pénible, pénible physiquement. Ils luttaient à chaque coup de rame contre les vagues et contre ce vent contraire, et peut-être même contre la fatigue, parce que c'était la nuit est faite pour dormir. Ils essayaient, coûte que coûte, de percer cette mer qui s'était dressée devant eux comme un mur. C'était pénible, fatigant, terriblement long. Peut-être un petit mot sur cette mer de Galilée. Elle avait 13 kilomètres de large sur 21 de long. Et c'était une mer bien connue des disciples parce que les disciples utilisaient ces eaux poissonneuses, n'est-ce pas, pour aller à la pêche, pour s'alimenter, pour se nourrir. Le problème, c'est que cette mer se situe au fond d'une cuvette, entourée de montagnes. Et donc, elle est souvent balayée par des vents qui soufflent très fort, des vents qui provoquent des vagues et des tempêtes. Alors, les disciples, à ce moment-là, devaient se sentir bien seuls. Où était leur maître? Que faisait-il? Pourquoi les avait-il abandonnés? Pourquoi les a-t-il envoyés dans cette galère? Que voulait-il au juste? C'est lui qui les a obligés à faire ce voyage, à cette traversée la nuit. C'est vrai, et c'est vrai que dans un premier temps, il laisse ses disciples se débrouiller seuls. Il est dans la prière, tout seul. Mais la suite le dira, il sait ce qui se passe avec les disciples, dans la barque, en pleine mer. Et finalement, il veille sur eux. D'ailleurs, si l'on tient compte des prières de Jésus que les évangiles nous présentent, on peut penser qu'il était aussi en train de prier pour ses disciples. Jésus n'était pas physiquement avec eux, présent dans la barque, mais il était spirituellement. Il savait ce qui se passait avec ses disciples. Il ne les avait pas abandonnés du tout. Or, pendant qu'ils rament et se débattent avec les vagues et les vents contraires, ils aperçoivent tout d'un coup, dans la noirceur totale de la nuit, peut-être l'heure la plus sombre de la nuit, un fantôme devant eux. Un fantôme qui en plus se dirige tout droit vers eux. Troublés, effrayés, ils se mettent à crier. C'est à ce moment-là, le bon moment, n'est-ce pas, que Jésus intervient et leur dit, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. » Mais Jésus leur a permis de passer ce moment très difficile et finalement il est là pour les aider, il est revenu à leur rescousse, leur porter secours. Il ne laisse pas dans la crainte, dans la peur, dans la souffrance. Il calme leur crainte par sa présence et sa parole. Et c'est à ce moment-là que Pierre, toujours fidèle à lui-même, n'est-ce pas, avec son caractère très affirmé, sûr de lui, fort, déterminé et en plus rassuré maintenant par la présence de Jésus, Pierre fait abstraction de la tempête, des vagues, des éléments déchaînés autour de lui et il demande à Jésus de pouvoir faire comme lui. « Seigneur, si c'est toi, laisse-moi aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus l'invite à venir. « Viens, viens !» Alors Pierre sort courageusement du bateau, fixe les regards sur Jésus et se met à marcher sur les eaux en direction de celui-ci. Il croit à la parole de Jésus. La présence de Jésus et l'invitation de Jésus font qu'il est capable de croire à ce moment-là. Et il se met en marche. Il va vers Jésus sur les eaux. Il oublie tout ce qui se passe autour. Les éléments déchaînés, les vagues, la tempête. Et il se met à avancer sur la mer en direction de Jésus. Hélas, cela n'a pas duré longtemps. Après avoir fait quelques pas, n'est-ce pas, sur l'eau, il a détourné le regard de Jésus. Et le texte dit qu'en voyant que le vent était fort, il eut peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau et à crier « Sauve-moi !» Pauvre Pierre, qui passe si vite de la foi au doute, qui passe si vite du courage à la crainte, de la victoire à la défaite. Quand il entend Jésus lui dire « Viens », il croit à sa parole et il ose. Il ose avancer au milieu de la tempête. Mais quand il détourne le regard de Jésus et qu'il aperçoit les vagues et le vent qui souffle fort, il a peur. Il commence à raisonner et la peur s'est emparée de lui et a pris la place de la foi. Mais Jésus était là. Et c'est à ce moment-là que Jésus étend immédiatement la main pour le saisir. Et lui dit ces paroles pleines de tendresse. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ?» Jésus rejoint la barque avec Pierre et la tempête s'arrête à ce moment-là. Lorsqu'il donnera plus tard à ses disciples l'ordre d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, il ajoutera ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il l'avait démontré ce jour-là et à d'autres occasions. « Tout pouvoir, même sur le vent et sur la mer. » Lors d'une autre tempête rapportée par les évangélistes, Jésus a aussi calmé le vent et la mer. Et les disciples étonnés se demandaient, mais quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et la mer lui obéissent? Les disciples qui avaient vu des miracles extraordinaires la veille et qui constatent une fois de plus la présence de Jésus parmi eux, cette présence qui calme les tempêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Jésus et lui disent, tu es véritablement le Dieu, le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, avec Jésus. Alors, quelles sont les leçons? Quels sont les enseignements que nous pouvons retirer pour nous aujourd'hui, pour nos vies de chaque jour? Je vous donne maintenant la parole, ceux qui veulent participer. Il y a un micro. Guillaume, tu peux passer un micro à Simone.
Voilà, alors moi j'ai préparé une approche un tout petit peu différente parce que j'ai vu ça d'un autre point de vue. Alors j'espère que ça va pas. Bon, c'est peut-être des bêtises. Hein. Voilà, donc si on fait schématiquement, si on refait l'histoire schématiquement, donc c'est pour moi c'est immédiatement après la multiplication des pains. Et je me dis que peut-être il avait fait un grand miracle et que peut-être il voulait les conforter dans leur foi parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester très longtemps sur terre et qu'il fallait accentuer un petit peu leur confiance. Le fait qu'il donne l'ordre de partir, donc c'était oui, c'est ce que tu disais que ça serait très dur puisque je pense que le vent s'est pas levé d'un coup et il devait déjà souffler un petit peu. Donc pendant des heures, la solitude, le froid, peut-être, je ne sais pas le temps qu'il fait là-bas, la peur, l'angoisse, la nuit, les ténèbres, et puis le sentiment de se sentir abandonné, complètement seul, parce qu'il savait que Jésus était là-haut, pourquoi il n'est pas intervenu, pourquoi il n'est pas descendu, pourquoi. Et puis bon, c'est seulement au petit matin, parce que la quatrième veille, je pense que, comme c'est la dernière, je pense que c'était, enfin, je verrai ça un petit peu plus tard que 3-4 heures du matin, donc ils avaient ramé toute la nuit. Et je ne sais même pas s'ils continuaient de ramer, parce que c'est peut-être ça le problème pour nous aujourd'hui, c'est que souvent, dans la détresse, on rame, alors qu'en fait, peut-être des fois, il faut s'arrêter. Peut-être ils s'étaient arrêtés, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça devait être terrible. C'est là que Jésus descend, enfin se montre de façon surnaturelle, d'où le trouble, la frayeur et les cris de peur. Et je ne comprends pas pourquoi, enfin, là aussi il y avait un message, parce qu'il voulait se montrer, il est venu comme ça en marchant sur l'eau, alors qu'il pouvait très bien faire cesser la tempête, il l'avait déjà fait avant ou après, je ne sais pas, mais... Et bon, le vent, la mer et le vent lui obéissent, donc il pouvait très bien faire cesser la tempête de là où il était. Et donc, aussitôt qu'il crie, parce qu'il ne crie pas à Dieu, il crie parce qu'ils ont peur. Donc Jésus leur parle pour les rassurer. Et Pierre demande une preuve, parce qu'il ne savait pas si c'était des démons, si c'était un fantôme. Et bon, il n'avait pas... Ils n'avaient pas la Bible telle qu'on l'a, donc on a quand même des références peut-être plus précises, mais eux, ils n'avaient pas ça. Donc, il fallait quand même qu'ils demandent une preuve. Et ça me fait penser à l'histoire d'Ézéchias, qui lui aussi avait demandé une preuve, alors que pour sa guérison, Ésaïe lui avait annoncé sa guérison. Et en fait, Ézéchias avait besoin d'une preuve, donc l'ombre qui recule de 10 degrés, je ne sais pas, je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc Pierre demande à marcher sur l'eau, mais je pense que ça, je me demande si ça, comme il était, on dit qu'il était sanguin, mais je crois que c'était un gros sentimental, et que sa parole a dépassé sa pensée, parce que il a dit ordonne que je marche sur l'eau, mais je pense que il y avait du vent, et le vent n'avait pas cessé, c'était les mêmes conditions. Donc il a, ben, Jésus lui a obéi, enfin il a répondu à sa prière, ordonne que je marche sur l'eau, ben, il a marché sur l'eau, malgré le vent, malgré la tempête, malgré les conditions, et sans savoir vraiment si c'était Jésus. Donc, puis c'est là qu'il a pris conscience de ce que le vent soufflait, de ce que la mer allait l'aspirer, de ce que les conditions n'avaient pas changé. Alors Jésus était intervenu, mais rien n'avait changé. Donc Pierre, il a peur tout d'un coup, parce que il prend, comme nous, hein, quand on prend conscience des choses, ben voilà, on sombre. Et donc c'est là qu'il crie à Jésus, sauve-moi. Jésus tend la main et le prend dans la barque, et c'est là seulement quand ils sont dans la barque que la tempête s'apaise. Donc parfois on voit des miracles, des choses inespérées, des réponses précises. Et puis comme Pierre, on se demande si cela vient bien du Seigneur. Alors on pose des questions, on réfléchit. Et puis quand ça ne marche pas, ben, des fois les choses empirent. Non seulement elles ne s'améliorent pas, mais elles empirent. Et alors on doute de Dieu, on doute de nous-mêmes. On ne sait plus où est Dieu, on ne sait plus où est l'ennemi, la part qui revient à l'un et à l'autre. Et on perd confiance et des fois on coule. Donc voilà.
Merci Simone. Quelqu'un d'autre? Il faut oser. Jacques?
Ouais, moi je pense que le Seigneur dans ce cas particulier montre que quand il ordonne quelque chose, l'homme n'est pas capable de le faire tout seul. Il faut qu'il mette sa confiance en lui totalement. Et que de toute façon, Dieu vient au secours si on met sa confiance en lui. Et ce qu'il nous demande par sa parole, c'est justement de mettre sa confiance en lui, et à ce moment-là, on ne doute pas. Mais c'est pas chose facile, mais simplement en demandant sans cesse qu'il nous aide, et en mettant sa confiance dans son amour, il nous mène au bon port, et la tempête peut s'apaiser dans nos cœurs.
Merci. Philippe?
On pourrait se poser la question, est-ce que Pierre aurait eu moins peur s'il avait su nager? Si on considère que la tempête, la mer battue par les flots, la barque battue par les flots, c'est le monde, l'adversité, le monde avec ses dangers et avec ses tentations, eh bien si Pierre avait su nager, il aurait eu une protection provisoire qui aurait fini par s'éteindre, et c'est pour ça que je pense que Pierre ne savait pas nager, parce qu'il savait très bien qu'en tant que pêcheur, ça ne finirait que mal s'il était au milieu de la mer en pleine tempête, et peu de pêcheurs savent nager en fait. Donc l'idée de savoir nager, ce serait de se battre avec ses propres forces, peut-être juste avec une bonne connaissance de la Bible ou avec la vie de l'Église, mais Pierre n'a été vraiment sauvé il n'a pu marcher sur l'eau que parce qu'il a regardé à Jésus. C'est uniquement cela qu'il a maintenu au-dessus de l'eau. D'autre part, Jésus donc lui demande pas de nager jusqu'à lui, au risque d'être submergé par les flots. Il ne lui demande pas non plus de voler jusqu'à lui, où là il aurait perdu tout contact avec la réalité du monde, tout contact avec le monde qui l'entoure. Il devenait un surhomme. C'est pas du tout non plus le sens. Simplement, Pierre marche sur l'eau. Il est en contact avec le monde, mais en ayant un regard sur Jésus, il peut accomplir cette chose qui est incroyable, mais qui ne le coupe pas de toute relation avec le monde. Et enfin, les dernières choses, chaque occasion d'avoir peur est aussi une occasion d'avoir confiance.
Merci. Quelqu'un d'autre ? François ?
Oui, je pense que dans cette expérience aussi, le Seigneur nous demande à être adultes. C'est-à-dire qu'indirectement, il nous demande à un moment donné de sortir de notre zone de confort où on maîtrise à peu près tout, où on a les paramètres à peu près bien en notre possession, et c'est très confortable d'être à un moment donné suiveur. De dire, voilà, je suis dans une zone de confort, j'ai le patron qui est avec moi, et tout va bien finalement, et j'ai pas grand-chose à redouter. Et ça, c'est facile à ce moment-là d'être un peu fier à bras, et de faire des grandes déclarations, évoquer des grands principes, et faire des affirmations péremptoires. Ça, c'est extrêmement facile. Et je pense qu'effectivement, ce que Simone disait tout à l'heure, oui, c'est un peu Pierre. Mais ne sommes-nous pas tous un peu par moments des pierres? Et souvent je me fais la réflexion, quand on chante certains cantiques, il y a des phrases qui sont chantées, je me dis, mais est-ce qu'on réalise réellement ce qu'on est en train de chanter? Je pense par exemple, quand je me mets à chanter « L'ennemi tremble », etc., mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on est en train de dire? Il faut quand même réaliser la portée des paroles que l'on est en train de prononcer. Je pense que l'ennemi, il est là et il nous attend. Et peut-être que, justement, là, Jésus nous dit, soyez adultes et à un moment, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, je suis pas là. Enfin, je suis là, mais je suis pas tout de suite à côté de vous. Et maintenant, débrouillez-vous un petit peu, jetez-vous dans l'inconnu, sortez de votre zone de confort, sortez d'un cadre qui vous est quand même relativement familier, vous en connaissez le périmètre, allez un petit peu au-delà de ça. Et puis voyez comment vous êtes capable de réagir. Et je pense que ça, c'est un enseignement. Et je pense qu'il n'y a pas que ce texte dans la Bible qui nous invite à passer d'un statut d'enfant materné, paterné, où tout est facile. Effectivement, on suit. Et c'est formidable parce qu'on a papa, maman qui sont là. On a Jésus qui est là. Tout est beau, le soleil brille. Et la vie semble belle. Mais à un moment, il faut aussi affronter les réalités et se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, d'abord, tous ensemble, être adulte, savoir réellement ce qu'on est capable de faire tous ensemble, et est-ce qu'on est prêt à aller affronter les vagues sans avoir toutes les garanties et toutes les données du problème qui nous attendent. Est-ce qu'on est prêt à avoir du discernement? Parce que je pense qu'il y a un petit peu aussi cette notion du discernement qui est plus ou moins abordée dans ce texte, parce que Quand Pierre dit « Est-ce bien toi ?», ben, c'est vrai que nous-mêmes, parfois, on se demande, face à une situation donnée, mais est-ce que c'est voulu par le Seigneur ou c'est complètement à côté de ce que veut le Seigneur? On y va, on se jette à l'eau, collectivement, individuellement. Voilà, quelques réflexions que je voulais partager. Il faut qu'on soit adulte, il faut qu'à un moment, on sache prendre nos responsabilités. Et il ne faut pas se limiter à être de purs suiveurs, mais il faut être un moment acteur. Il faut être acteur de ce que nous impose de vivre la vie, Et je suis évidemment persuadé que le Seigneur nous met dans des situations où il nous impose de réagir par nous-mêmes et de ne pas être des suiveurs à penser que la solution, elle va nous tomber tout cuit comme ça dans le bec, facile. Mais à un moment, il va falloir aussi se montrer adulte et capable de réagir face à une inconnue qui se présente.
Merci François. Quelqu'un d'autre ? Oui, Hervé.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est que par ces passages, on se rend compte que les disciples sont dans la galère, qu'ils rament, qu'ils sont dans la galère à tous les sens du terme, comme nous, on est dans la galère à tous les sens du terme, au quotidien, que tout va mal, que tout est contre eux, qu'il n'y a pas de solution, pas d'issue, qu'ils font leur maximum pour essayer de s'en sortir. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'ils n'ont rien demandé. C'est Jésus qui vient à eux et qui vient les sauver. Et le passage ne fait, enfin au moins que j'ai pas tout compris, mais le passage ne fait absolument pas il n'explique absolument rien sur le fait que les disciples appellent Jésus à l'aide, qu'ils prient pour dire viens nous sauver, viens faire quelque chose. Non, c'est Jésus qui vient les retrouver, alors qu'il leur avait donné un objectif qui était de l'autre côté. Ils n'y sont pas encore arrivés, ils sont dans la galère et c'est Jésus qui vient les aider. Et ça, on peut aussi en faire notre quotidien, c'est-à-dire que ça peut aller très mal et que de la même façon, on peut avoir Jésus qui vienne et venir nous aider alors qu'on n'a rien demandé.
Merci Hervé. Marie-Claude, au fond.
Je voulais juste dire quelques mots sur un aspect un peu différent du texte, c'est-à-dire que on voit Jésus qui, c'est un des exemples où il défie les lois naturelles et les lois de la physique. Et je crois que pour nous maintenant, même si nous avons de grosses galères, ça n'est rien de comparable peut-être à l'Église qui traversera vraiment la période avec l'Antéchrist. Et je crois que ce qu'il nous faut demander au Seigneur, c'est de croire que son intervention sera surnaturelle le moment venu et qu'il est prêt même à défier les lois de la physique pour nous porter secours. Voilà, donc je le situe dans cette perspective et avec la foi.
Merci. Une dernière intervention, parce que l'heure avance. Plus personne n'ose. Bon, dans ce cas-là, je vais essayer de vous présenter aussi mes conclusions à moi. Certaines choses ont été déjà relevées, mais je dirais surtout trois choses. D'abord, je me suis dit que nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience que les vagues et les vents contraires font partie de la vie chrétienne aussi. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui pensent, bon, à partir du moment... D'ailleurs, il y a même des prédicateurs qui l'annoncent, hein, venez à Jésus, tout ira bien. Non, il y a des vagues et des vents contraires dans la vie des chrétiens. Et Marie-Claude parlait de l'Église dans cette barque qui s'appelle « Église de Jésus-Christ ». Qui naviguent depuis 2000 ans avec plus de 2 milliards de personnes, n'est-ce pas, qui sont dans la barque. Il y a eu des vagues et des vents contraires terribles, n'est-ce pas? Mais elle est toujours là, parce que c'est la barque du Seigneur. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Notre vie chrétienne est souvent une mer immense et agitée. Elle ne se vit pas sans difficulté. Et donc il nous faut apprendre dans la vie chrétienne à vivre des choses qui parfois sont très difficiles à vivre. Nous devons les accepter et nous devons nous préparer à vivre ces choses-là. À vivre ces choses-là. N'oublions pas que c'est Jésus qui a envoyé les disciples dans la barque, la nuit, faire cette traversée. Jésus savait bien ce qui allait leur arriver. Et j'ai pensé à deux passages de la Bible. D'abord, Jésus qui avait dit à ses disciples, Jésus ne trompait pas les disciples, il ne mentait pas, et il leur a dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Donc il était très clair avec nous, n'est-ce pas? Nous aurons des difficultés dans le monde, des tribulations, des vicissitudes. Et l'autre passage, l'apôtre Paul, où il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, nous nous interrogeons sur le pourquoi de certaines difficultés, mais la parole de Dieu nous dit tout simplement de faire confiance parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et donc, le Seigneur nous aide à surmonter ces choses et il nous aide aussi souvent à voir dans ces difficultés l'objectif du Seigneur pour nos vies. Le deuxième enseignement que j'ai retiré, c'est que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Le récit le montre, n'est-ce pas ? Au moment qu'il choisira, mais au moment qu'il choisira, il viendra nous porter secours. Il viendra chuchoter à notre oreille, « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Et il le fait parce que, donc il a le pouvoir sous les éléments, il est au-dessus de tout, de toutes nos difficultés, quelles soient, car il marche sur les eaux. Il a ce pouvoir, cette puissance. C'est lui qui a créé les lois de la physique, donc il peut bien les dominer, les contrôler. Jésus est capable de venir à notre secours. Et il y a des textes bibliques qui nous disent qu'il est dans les hauteurs, n'est-ce pas, au ciel, auprès, à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie pour nous, il intercède pour nous. Il est là pour intercéder pour nous et il viendra à notre secours. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Église, il promet de venir un jour, il va revenir chercher son Église. C'est une espérance formidable que nous avons de la parole de Dieu. Donc, comme l'épreuve est permise par le Seigneur, et on voit bien, la Bible est très claire, le Seigneur permet des épreuves dans nos vies, lui-même prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et c'est ce que nous lisons, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations, le mot tentation veut dire tentation et épreuve. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Une assurance formidable de la parole de Dieu que nous devons prendre pour nous aussi, n'est-ce pas, quand nous sommes dans la difficulté. Sinon, on pourrait encore retirer une troisième leçon. Il y en a plusieurs, mais je dirais que la clé de la victoire de notre vie chrétienne, ne se trouve pas dans la crainte, dans la peur, mais dans la confiance, dans l'adoration, et je dirais même dans la prière, parce que Jésus était à part pour prier. Et si Jésus prie, qui sommes-nous pour ne pas prier, n'est-ce pas? Nous avons d'autant plus besoin de la prière, de la communion avec le Seigneur. Donc la clé de la victoire se trouve dans la confiance, dans l'adoration, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Donc le Seigneur veut nous faire dépasser nos limites humaine dans la gestion des difficultés, et je sais que certains d'entre vous vivent des difficultés parfois terribles, difficiles. Le Seigneur veut qu'on soit capable avec lui de dépasser les limites les limites humaines. Le Seigneur veut que nous, les chrétiens, nous développions une profonde confiance en lui, en gardant nos yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de notre salut, celui qui le mènera jusqu'au bout. C'est certainement là le secret de la vie chrétienne. Et donc Pierre et ses confrères avaient besoin d'apprendre cette leçon. Voilà pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Jésus les a envoyés comme ça, la nuit, aller de l'autre côté, prendre le bateau et aller de l'autre côté, faire la traversée de cette mer. Il voulait les faire grandir dans la foi et dans leur compréhension de sa personne aussi, n'est-ce pas? Parce que s'il n'a pas accepté que le peuple et les disciples l'acclament roi, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas le Messie promis. Non, c'est parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il avait une autre mission à accomplir, et donc Jésus a voulu leur montrer qu'il était bel et bien le Messie promis, annoncé par les prophètes, et qu'il était souverain sur la terre et la mer. Aussitôt, Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Que nous puissions garder ces paroles dans nos cœurs. Si nous vivons des difficultés, que ces paroles puissent rester avec nous. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà ce que Jésus nous dit ce matin. Nous allons prier.